Radio Kapi. Oh, Kapi.
Tout de suite, en entame de ce journal, Radio Kapi vous fait une mise à jour de la situation sous les théâtres des combats dans le Nord Kivu entre l'armée régulière et le mouvement terroriste M23. La journée de ce mardi est marquée par des multiples échanges de tirs. L'armée tient à contrer et déloger ses hors-la-loi. Autre actualité que Radio Okapi suit pour vous, c'est le rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba et tout le cérémonial y afférent. En effet, c'est ce mardi que la RDC entre en danse sur son territoire avec l'arrivée programmée de l'avion qui transporte le reste du corps du premier ministre congolais. L'artiste peintre Franck Dikisongele, coordonnateur de la plateforme culturelle RD Congo Terre d'Artistes, est notre invité en fin de ce journal. Il nous parle de l'exposition pluridisciplinaire d'œuvres d'art qui aura lieu à la place de l'échangeur de Limété sous le thème Eko Lumumba. Fidèles auditeurs, merci de votre attachement à Radio Kapi. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. Au Nord Kivu, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se sont poursuivis toute cette journée dans le territoire de Rutshuru. C'est notamment dans les groupements de Kisigari et Jomba. Les sources administratives locales font état des civils qui ont trouvé la mort suite à des bombes qui ont été larguées par les rebelles vers Bikenke. Jusqu'ici, aucune réaction de l'armée n'a été recueillie. Le point de la situation avec Bernard Danyangi.
Selon des sources administratives et de la société civile à Rutshuru, les affrontements ont continué jusqu'à 14 heures locales, notamment dans la zone de Bikenke, Nkokwe et Bukima, à cheval entre le groupement de Jomba et celui de Kisigari. Ces sources précisent que ces affrontements avaient commencé autour de 23 heures hier avant de s'intensifier entre 2h et 3h du matin. Les rebelles M23 auraient ciblé les positions FARDC dans les Bikenke, 17 km sud-est de Rutshuru centre, et notamment Shangi, Bukima et Nyesi-Singugo, plus de 20 km au sud de Rutshuru. D'autres tirs ont été entendus sur l'axe Kabindi, ajoutent d'autres sources concordantes. Si l'armée n'a pas encore communiqué sur la situation, nos sources indiquent qu'elles maintiennent toutefois ses positions dans la zone. Ces sources déplorent cependant le meurtre d'au moins 9 civils lors des attaques de ce mardi dans cette zone de Bikenke. Aussi, pour ces sources, ces multiples attaques simultanées depuis dimanche soir par des rebelles du M23 contre les positions de l'armée menacent de plus en plus l'axe central de Matebe-Rwanguba. Les populations plaident pour des actions urgentes en vue de freiner les actions des rebelles. Goma, Bernard Dignangui, Radio Kapi.
Dans la même province, le gouverneur du Nord Kivu vient d'ordonner depuis hier lundi à tous les opérateurs économiques de suspendre toute opération d'importation et d'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana. Ce poste douanier est situé en territoire des Rutshuru à la frontière avec l'Ouganda. Le lieutenant-général Constant Ndima motive cette mesure suite à l'occupation de la cité frontalière de Bunagana par les rebelles du M23 depuis le 13 juin dernier. Denis Lukeso.
D'après le communiqué du gouvernement provincial d'hier lundi, tout opérateur économique ou commerçant qui va enfreindre cette mesure sera considéré comme complice. Dans ces mêmes documents, l'autorité provinciale prévient que toute personne dont la marchandise de quelque nature que ce soit, qui pourra se servir de ces couloirs pour importer ou exporter sa marchandise, sera considéré comme fraudeur et collaborateur des rebelles du M23. Le lieutenant général Constant Dima précise toutefois que les trafics commerciaux pourront reprendre au niveau des postes frontaliers dès la reprise du contrôle de Bunagana par les FARDC. Il affirme que l'armée est à pied d'œuvre pour restaurer incessamment l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Au même moment, le M23 annonce pour sa part l'ouverture du trafic commercial sur ces postes frontaliers pour permettre, dit-il, à la population de se ravitailler en vivres, mais aussi, selon les porte-parole du mouvement rebelle, pour permettre le retour des populations, notamment des écoliers, afin de passer les NAFEP et l'examen des qui approche. Rappelons que le poste frontalier congolais de Bunagana est depuis une semaine environ occupé par les rebelles du M23. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Nous parlons toujours de la situation dans la partie est de la RDC, cette fois-ci à Ituri, avec ce retour progressif des populations qui s'observent depuis environ un mois dans plusieurs localités dans les territoires des Djougou, Mahagi et Irumu. Selon des sources concordantes, c'est suite à une accalmie due à la cessation unilatérale des hostilités par certains groupes armés et les opérations militaires menées par les forces conjointes FRDC et armées ougandaises contre les rebelles des ADF. L'armée invite les milices qui détiennent encore les armes à les déposer pour le rétablissement d'une paix durable dans cette province. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'un mois que la situation sécuritaire semble s'améliorer dans plusieurs entités de la chefferie de Walendu-Watsi ainsi que de Panduru à Mahagi à la limite avec le territoire voisin de Djougou. Il s'agit par exemple des villages Yaku, Loko, Rimba et Ngakpa qui s'étaient presque vidés de leurs habitants il y a de cela une année. Le responsable de cette entité coutumière salue les avancées sécuritaires dans la zone ainsi que la signature de l'acte d'engagement des cessations des hostilités qui, selon lui, a facilité le retour progressif de la population. Arnold Loko.
Ce qui rassure actuellement la population, c'est la présence d'abord de militaires à Kambala, aussi à Katanga. Et aussi, on a fait qu'il y a eu signature d'accord de cessation des hostilités par les éléments de Côte-Éco. C'est cela qui, davantage, sont en train de rassurer la population.
Le retour de la population est également observé au village Babumbe, Tolitoli, Bahaha, Makwangi et Lolwa dans le territoire de Mambasa. C'est grâce aux opérations des traques des rebelles des ADF par les FARDC et l'armée ougandaise. Cependant, ces retournés vivent dans des conditions difficiles. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes d'adhérer au processus de paix initié par le chef de l'État. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans le Tanganyika avec la fin des opérations de la MONUSCO dans cette province qui est effective. La cérémonie de clôture des activités s'est tenue ce mardi à la base de la MONUSCO. Le gouvernement central a dépêché le ministre national des droits humains. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a présidé la cérémonie en présence de tout le leadership de la MONUSCO, des autorités provinciales et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires du Tanganyika. François-Xavier Mibé a vécu l'événement.
Le moment attendu est enfin arrivé. Ce moment a regroupé tout le leadership de la MONUSCO qui s'est déporté de Kinshasa jusqu'à Kalemi, avec à sa tête la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta. Il y a eu aussi le représentant du gouvernement central, le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Puella. Tous viennent d'être entourés à la cérémonie par les autorités provinciales et les membres de la société civile du Tanganyika. La MONUSCO, qui clôture aujourd'hui ses activités, est arrivée en 2001 au Tanganyika. La situation sécuritaire qui a prévalu à l'époque a nécessité le déploiement de la mission onusienne au Tanganyika. Aujourd'hui, après les opérations de maintien de la paix, menées en partenariat avec les autorités provinciales et d'autres partenaires humanitaires, la donne a changé et la sécurité installée. Seuls les territoires des Kalemi et plus particulièrement le secteur de Bendera et le territoire des Nyonzou posent encore des problèmes sécuritaires à cause des actes de banditisme que comptent régler les autorités provinciales avec le concours des services de sécurité. Les principaux intervenants se félicitent d'avoir bénéficié de différentes actions de la MONUSCO qui ont beaucoup contribué à la transformation de leadership féminin, de la jeunesse, de la société civile et des services de sécurité. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a tenu à préciser que la MONUSCO clôture ses opérations au Tanganyika, mais les Nations Unies doivent poursuivre le travail à travers les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. L'occasion pour la représentante Bintou Keïta de clôturer la cérémonie par la remise des différentes clés à la gouverneure de province, Julie Ngungwa Mayuma, des donations en véhicules et d'autres équipements informatiques. Kalemi, François Djabimbe, Radio Okapi.
Comme dit dans le sommaire, la dépouille de Patrice Emery Lumumba quitte le sol belge pour la RDC ce mardi 21 juin. Des honneurs militaires ainsi que les derniers hommages de la communauté congolaise ont été organisés avant le départ. Le rapatriement de Kinshasa des restes du premier ministre de la RDC se fera à bord de l'Airbus du nom de Patrice Emery Lumumba de la compagnie Congo Airways, un avion floqué à son effigie pour l'occasion. Ce retour au pays marque ainsi la fin des cérémonies officielles organisées en Belgique autour de la restitution de la dent de Patrice Emery Lumumba à sa famille et aussi le début d'autres activités ici au pays. Compenser les enfants et petits-enfants de Lumumba de toutes ces cérémonies, Cynthia Bachizi.
D'une voix tremblotante, Juliana Lumumba n'a pas réussi à retenir ses larmes dans son discours d'adieu à son père.
Père, comment es-tu mort ? On ne sait pas. Quand es-tu mort ? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Tout ce que nous savons, père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Père, à présent, bien retour au pays.
Pour Amaury Lumumba, petit-fils Lumumba, au-delà du deuil, ce moment s'inscrit dans une symbolique de renouveau.
Ça va permettre non seulement à toute une famille, mais à tout un peuple de faire son deuil. Quand on pense à Patrice Emery Lumumba, on pense à, certes, la personne qui a apporté l'indépendance au Congo, mais je pense qu'il représente aussi, il s'inscrit dans une longue lignée de défenseurs de la liberté et en ce sens, il a une portée universelle non négligeable.
Après un transit à Kinshasa, la dépouille de Patrice Emery Lumumba sera conduite à Lumumbaville dans la province du Sankuru.
Autre nouvelle à présent, admission de plus de 70 personnes à l'hôpital après une fête de mariage dans la ville de Kikwit, province du Kwilu. Le diagnostic médical confirme une intoxication d'origine alimentaire. Le maire de la ville qui livre l'information indique qu'une équipe de l'INRB est diligentée à Kikwit pour le prélèvement des échantillons afin de dénicher l'origine de cette intoxication alimentaire. Léonard Moutangou précise qu'à l'heure actuelle, bon nombre des malades victimes ont déjà quitté l'hôpital après la prise en charge. Le point avec Irène Bauma.
D'après les informations récites du maire de la ville de Kikwit, ces personnes qui ont été internées dans différentes formations sanitaires de cette ville après avoir participé à une fête de mariage dimanche 12 juin 2022 ont été bel et bien victimes d'une intoxication alimentaire. Ceci est le diagnostic de certitude après investigation médicale. Quant à la dite intoxication alimentaire, Léonard Moutangou indique que des échantillons sont déjà prélevés par une équipe de l'INRB diligentée sur place pour en élucider l'origine.
Le diagnostic médical a été fait. Les échantillons sont au laboratoire. Une équipe de l'INRB était descendue ici sur place. Et ils sont en train de faire d'autres investigations. Nous saurons à quoi était due cette intoxication. La plupart de ces malades sont sortis de l'hôpital. Je dirais que ce n'est pas la première fois. Au mois d'avril, j'ai été informé des gens qui ont eu des malaises après une autre fête.
Pour rappel, sachez que sur les 250 personnes qui ont pris part à cette fête de mariage, plus de 70 y compris les couples à l'honneur, ont présenté des signes cliniques comme l'émission de sels liquides, le vomissement, la colique abdominale et l'asthénie physique. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Santé au Maniema, plus de 6000 cas de rougeole ont été enregistrés avec 157 cas de décès en 2021. Cette situation préoccupe le gouvernement et ses partenaires. C'est dans ce sens que le gouvernement provincial a lancé le lundi 20 juin à partir de la zone de santé de Kampene la campagne de vaccination contre la rougeole sur toute l'étendue de la province. Dans une interview ce mardi 21 juin, le ministre provincial de la Santé fait savoir que cette campagne de 5 jours vise plus de 217 000 enfants de 6 mois à moins de 5 ans. Dr Kikungi Mutanga exhorte les parents à amener leurs enfants au poste de santé pour être vaccinés. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Cette campagne a concerné 5 zones de santé dans le cadre de l'OMS et une zone de santé avec l'appui de l'UNICEF. Donc, il s'agit de la zone de santé de Kindu, Kampene, Kunda, Samba, Kabambare et Pangi. Comme vous le savez, nous nous sommes basés avec les statistiques de 2021 où nous avons recensé 6408 cas de rougeole, y compris 157 décès. Et les taux de létalité étant de 2,5%, raison pour laquelle le gouvernement national avec le partenaire UNICEF OMS sont venus en aide à la province pour que nous puissions riposter dans les zones de santé où il y avait beaucoup de cas. Pour ce qui est de la stratégie, il s'agit d'une stratégie fixe et notre cible c'est 217 667 enfants que nous attendons vacciner dans ces 6 zones de santé. Je vais demander aux parents de pouvoir adhérer à cette vaccination, de nous amener leurs enfants pour que nous puissions les protéger contre cette maladie tueuse qui est la rougeole.
Et puis cette bonne nouvelle en rapport avec l'électrification de la RDC, 282 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe mobilisée par le gouvernement indien à travers Exim Bank of India pour financer le secteur de l'électricité dans le pays. C'est ce qu'a annoncé la Direction générale de la dette publique, DGDP. Laurent Batoumona, directeur général de la DGDP, qui s'exprimait ainsi ce mardi 21 juin à la presse lors d'une séance de restitution d'une mission de service effectuée en Inde la semaine dernière, a ajouté qu'une dizaine des projets sont concernés par ce financement. Laurent Batoumona lui dit à Paul Matendo.
L'État indien participe dans plusieurs projets, surtout les projets liés à l'électricité. Nous pouvons noter qu'ils sont sur le projet des barrages de Katende, des barrages de Kakobola, sur les photovoltaïques ou panneaux solaires à Ankoro, dans les Sankoro, dans l'Équateur et dans les Katanga. Il y a à peu près une dizaine de projets qui sont pilotés par des mouvements indiens à travers leur financement. Il se fait que les comptes sont en ordre. Nous sommes dans la même longueur d'onde entre l'État indien à travers l'Exim Bank India, qui est la branche financière du gouvernement indien, et le ministère des Finances à travers la Direction générale de la dette publique. Aussi avons-nous évalué un projet qui est en cours, c'est le désengorgement de la ville de Kinshasa. Et ils ont sélectionné l'entreprise AFCOM qui viendra pour chercher à ce que les travaux d'infrastructure routière puissent commencer.
Est-ce que l'on peut avoir une idée sur l'enveloppe globale de ces financements?
282 millions de dollars.
Actualité internationale.
Des infirmières et d'autres professionnels de santé en grève ont paralysé les hôpitaux publics du Zimbabwe, mettant à rude épreuve un système de santé publique autrefois dynamique, aujourd'hui en proie à un manque de médicaments et des fournitures de base comme les gants. Les soignants ont cessé de travailler lundi après avoir rejeté l'offre du gouvernement d'une augmentation de salaire de 100% qui, selon eux, ne suffit pas à répondre à leurs besoins dans un contexte d'inflation galopante de 130%. Et puis, des dizaines de Maliens ont manifesté mardi à Bankass, dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État après le massacre attribué à des djihadistes de plus de 130 civils dans des villages voisins où la recherche de disparus se poursuivait. Le Mali a connu au cours du week-end un de ses pires carnages des civils.
L'invité.
Eko Lumumba, c'est le thème d'une exposition pluridisciplinaire d'œuvres d'art qui aura lieu à la place de l'échangeur de Limité du 29 juin 2022 jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Cette exposition s'inscrit dans le cadre des activités marquant le retour de la Belgique des reliques du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 61 ans. L'artiste peintre Franck Dikisongele, coordonnateur de la plateforme culturelle RD Congo, terre d'artistes, est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Jean-Marc Matwaki.
Franck Dikisongele Zatoma, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeannot Matwaki.
Avant qu'on parle du contenu de l'exposition, que vous rappelle les personnages de Patrice Emery Lumumba en tant qu'artiste et enseignant à l'Académie des Beaux-Arts?
La personne de Lumumba me rappelle le poids du Congo, la ferme volonté d'exister, cette volonté d'avoir une identité propre. Soi. C'est vrai, on est les ressourcements de plusieurs cultures. On ne peut pas se refuser aujourd'hui, on traverse les frontières, les océans. Mais que devenez vous-même si vous n'avez pas une identité, si vous n'avez pas un starting block? J'appelle starting block, c'est les points de départ qui vous donnent la force d'aller plus loin. Ce qui nous donne la force de plus loin, c'est notre culture. Donc Lumumba, pour moi, me rappelle la détermination. Cette forme et volonté de vouloir donner le meilleur de soi-même.
Alors, l'exposition Eko Lumumba se tient de quelle date jusqu'à quelle date?
Sur la demande des autorités, l'expo se tient à partir déjà du 29. Certes, ça devrait bien rester 2 semaines, mais je pense qu'avec toujours sur demande des autorités, l'exposition pourrait aller jusqu'au mois de janvier 2023. Cette durée-là, ça permettrait que tout le monde vienne visiter. Parce que il n'est pas question tout simplement de mettre les reliques de Lumumba dans le mausolée, mais aussi les contextes historico-politiques qui surplombaient de la culture ou de l'aspect culturel. C'est ce qui est important que l'on voudrait faire communiquer et en même temps communier, partager avec la population. Donc, désormais, l'on ne regardera plus Lumumba comme simple figure politique, mais aussi historique à côté de l'historique, les côtés culturels qui fait la force de tout un peuple.
Combien d'artistes participeront ou participent à cette exposition et comment ces artistes essaient de représenter chacun à travers son médium, à travers sa discipline, le personnage de Lumumba?
Il y a une vingtaine d'artistes dont la sélection est faite par ceux-là qui étaient déjà intéressés quand nous avions lancé la chose. Mais nous pensons que, comme vous le dites, l'exposition, il est écho Lumumba. Avez-vous entendu parler de Lumumba? C'est ça le contexte aussi de l'exposition. Le contexte, c'est la création de cette exposition. Donc la créativité de cette exposition, dans cette exposition. Vous avez entendu parler de Lumumba. Qui vous inspire Lumumba? Comment percevez-vous Lumumba? Parce qu'il est question de la perception. La perception comme la sensation interprétée. Cela pourrait être avec des erreurs si l'on ne perçoit ou si l'on interprète qu'avec les yeux. Mais si l'on amène l'interprétation au niveau du jugement, au niveau de la raison, au niveau de la, oui, la raison d'être, de la pensée et la réflexion, eh bien, l'on ne donnera pas Lumumba seulement simple figure, Lumumba photo. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner à travers cette exposition comme un chiasme, comme un alibi en ce qui concerne le pays ou le Congo, l'Afrique, que chacun puisse donner l'image qu'il avait de Lumumba après l'avoir entendu, après avoir entendu parler de Lumumba, de ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire Lumumba a impacté le monde. Mais s'il a impacté le monde, à partir de quel âge? Et si c'est à partir de cet âge, qui est-ce qui était le sous-bassement de ses pensées? C'était culturel. Donc pour qu'un peuple soit fort, mûr, il faudrait d'abord que culturellement qu'il ait des bases. Donc je trouve ça avec raison qu'aujourd'hui le président de la République, dans tout ce qu'il fait, il essaye d'inclure toujours un aspect culturel. C'est avec beaucoup de bonheur qu'il a visité l'Académie des Beaux-Arts, il a été dans la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, et aussi il a été dans la représentation du Congo à Dubaï, dans l'Expo 2020. Et aussi nous, quand nous avons eu le bonheur d'aller au FEMIA, à Abidjan avec le ministère de la Culture, c'est par la volonté du gouvernement. Donc nous avons laissé un impact du point de vue culturel. En suivant même les films de Rumba King de Kleiss, les réalisateurs parlaient, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour les Congolais. Quand les Congolais partent pour des négociations à l'étranger ou partout, ils amènent toujours la musique. Il voudrait dire qu'ils amènent toujours une partie de la culture. C'est extraordinaire parce que la culture comme un ferment qui permet de consolider nos relations. Peu importe nos différences, mais nous pouvons nous enrichir par la culture. Je pense que c'est l'écho que le président de la République voudrait donner à partir de ce peuple dont maintenant il est le bonheur de diriger. Ce n'est pas en vain qu'il avait dit d'abord le peuple. La culture, c'est le peuple.
Franck Dikisonge les Atouma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie beaucoup et surtout l'intérêt que vous portez sur le retour des corps de Lumumba par ces aussi cette exposition, et je pense que ce n'est pas que les artistes, aussi tout ce monde, chacun dans son domaine. Aujourd'hui, on peut vanter Lumumba et nous sommes heureux de l'avoir maintenant enterré dignement en République démocratique du Congo sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, Fatih, remercie.